Série Censure, Les Cygnes Sauvages de Yung Chang, réalisation plastique et sonore de Mu. Le livre Les Cygnes Sauvages de Yung Chang, traduit en 1992 du livre anglais White Swans et publié aux éditions Pocha, est toujours interdit à ce jour en République populaire de Chine. Nous sommes en 2016. Yung Chang est chinoise. Victime de la révolution culturelle, elle quitte la Chine pour l'Angleterre à l'âge de 26 ans. Son livre, Les Cygnes Sauvages, une autobiographie de sa vie en Chine, dénonce les agissements du communisme à travers le personnage de Mao. Ses parents, hauts responsables communistes, seront finalement internés dans un camp de rééducation, tandis qu'elle sera déportée à la campagne. Les quelques extraits présentés ci-après, avec l'autorisation de Yung Chang elle-même, relate l'ambiance en Chine au XXe siècle sous l'emprise du communisme et de Mao. Extrait numéro 1, chapitre 12. Une femme habile est capable de préparer un repas sans nourriture. La famine, 1958-1962. À l'automne 1958, âgée de 6 ans, j'abordais l'enseignement primaire. Pour me rendre à l'école, il me fallait marcher une bonne vingtaine de minutes le long de ruelles pavées et boueuses. Chaque jour, à l'aller comme au retour, je scrutais consciencieusement le sol à la recherche de clous cassés, de chevilles rouillées ou de n'importe quel objet en métal enfoui dans la terre entre les pavés. Cette ferraille était destinée à alimenter les fourneaux d'une aciérie, notre principale activité à l'école. À 6 ans, je participais déjà à la production d'acier chinoise et je rivalisais avec mes camarades d'école en rapportant le plus de matériaux possible. Partout, autour de moi, tandis que je marchais, des haut-parleurs beuglaient une musique entraînante et des bannières, des affiches et d'immenses slogans peints sur les murs proclamaient « Vive le grand bond en avant !» et « Faites de l'acier, tout le monde !» Même si je ne comprenais pas tout à fait pourquoi, je savais que le président Mao avait ordonné à la nation de produire de l'acier en quantité. Dans la cuisine de mon école, on avait remplacé une partie des wok par des creusets installés sur d'immenses fourneaux. On y déversait toute notre ferraille, y compris les anciens wok brisés en morceaux. Les fourneaux restaient allumés en permanence jusqu'au jour où ils commencèrent eux-mêmes à fondre. Nos professeurs se relayaient 24 heures sur 24 pour les alimenter en bois et remuer le contenu des cuves avec une gigantesque cuillère. Nous avions très peu de cours. Notre aciérie miniature occupait trop de monde. Les élèves plus âgés y travaillaient eux aussi sans relâche. Quant aux autres, on les chargeait de nettoyer les appartements des enseignants ou de garder leurs bébés. Je me souviens d'être allé un jour dans un hôpital avec quelques camarades rendre visite à une de nos institutrices, gravement brûlée au bras par des projections de fer en fusion. Des médecins et des infirmières en blouse blanche couraient dans tous les sens. Il y avait un fourneau dans le sous-sol de l'établissement qu'il fallait continuellement approvisionner en bûches, y compris la nuit, même si cela nécessitait d'interrompre une opération délicate. Peu avant mon entrée à l'école, ma famille avait quitté la vieille cure pour s'installer dans une enclave spéciale, siège du gouvernement provincial. Celle-ci comprenait plusieurs rues bordées d'immeubles, de bureaux et d'habitations, outre un certain nombre de maisons particulières. Un mur élevé la séparait du monde. Près du portail principal se trouvait l'ancien club des soldats américains pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ernest Hemingway y avait séjourné en 1941. Il s'agissait d'un bâtiment de style chinois traditionnel, coiffé d'un toit de tuiles jaunes remontant sur les côtés et orné de lourds piliers rouges sombres. Il abritait à présent le bureau du secrétariat des autorités de Sichuan. Un énorme fourneau avait été érigé sur le parking de la résidence où les chauffeurs attendaient les ordres. La nuit, le ciel s'illuminait d'une étrange lumière et depuis ma chambre, à 300 mètres de là, j'entendais les rumeurs de la foule réunie autour du fourneau. Nos wok finirent dans le four en question, ainsi que tous nos ustensiles de cuisine en fonte. Ce ne fut pas une grande perte, puisque nous n'en avions plus l'usage. Plus personne n'avait le droit de faire la cuisine à la maison. Tout le monde mangeait à la cantine. Les fourneaux étaient insatiables. Le lit à ressort de mes parents, pourtant si confortable, y passa, ainsi que les barrières en fer des trottoirs et tout ce que la ville comptait dans ce matériau. Pendant des mois, je ne vis pour ainsi dire pas mes parents. Souvent, ils ne rentraient même pas le soir à la maison, car ils devaient assurer le maintien des fourneaux de leur bureau à une température constante. Ce fut à cette époque-là que Mao donna toute son ampleur au rêve illusoire qu'il avait de faire de la Chine une puissance moderne de premier rang. il baptisa l'acier « maréchal » de l'industrie et ordonna que l'on double la production en l'espace d'une année, de 5,35 millions de tonnes en 1957 à 10,7 millions en 1958. Toutefois, au lieu d'essayer de développer l'industrie sidérurgique elle-même en multipliant le nombre d'ouvriers qualifiés, il décida d'engager dans ce processus l'ensemble de la population. Chaque unité avait son quota d'acier à remplir et pendant des mois, les gens cessèrent toute autre activité pour y parvenir. Le développement économique du pays se résumait à la question simpliste de savoir combien de tonnes d'acier pouvaient être produites et la nation tout entière se consacra corps et âme à ce seul et unique secteur. Les chiffres officiels indiquèrent que près de 100 millions de paysans durent abandonner leurs travaux agricoles pour se lancer dans la production sidérurgique. Ils fournissaient jusque-là l'essentiel des approvisionnements alimentaires du pays. De surcroît, on dépouilla les montagnes entières de leurs forêts pour obtenir du combustible. Or, les rendements de cette production de masse se limitèrent en définitive à ce que le peuple chinois appela des bouses de vaches. En d'autres termes, des résidus inutiles. Cette situation absurde reflétait non seulement l'ignorance de Mao en matière d'économie, mais aussi une indifférence presque métaphysique vis-à-vis de la réalité. Sans doute intéressante de la part d'un poète, mais plutôt problématique dans le cas d'un dirigeant investi d'un pouvoir absolu. En fait, cette attitude procédait surtout d'un profond mépris pour la vie humaine. Quelque temps auparavant, Mao avait déclaré à l'ambassadeur finnois « Si les États-Unis disposaient de bombes atomiques plus puissantes et s'en servaient contre la Chine, creusant un trou dans la planète ou la réduisant en miettes, ce serait probablement une catastrophe pour notre système solaire, mais cela n'aurait qu'un impact insignifiant sur l'ensemble de l'univers. » Le volontarisme de Mao avait été alimenté par sa récente expérience en URSS. Profondément déçu par Khrouchtchev, depuis sa dénonciation de Staline en 1956, le leader chinois s'était rendu à Moscou à la fin de l'année suivante pour assister à un sommet communiste international. Il en revint convaincu que la Russie et ses alliés étaient en train de renoncer au socialisme pour devenir révisionnistes et considéra désormais la Chine comme la seule véritable adepte du communisme. Il fallait par conséquent qu'elle ouvre une voie nouvelle. Mégalomanie et volontarisme se mêlaient aisément dans l'esprit de Mao. Personne ne mit en cause sa fixation sur l'acier ni aucune de ses autres obsessions. Il se découvrit un jour une aversion pour les moineaux parce qu'ils dévoraient des semis. Tous les foyers de Chine furent mobilisés. Nous passions des heures dehors à taper furieusement sur des objets en métal, cymbales ou casseroles, afin de les chasser des arbres dans l'espoir qu'ils finiraient par tomber raides morts d'épuisement. J'entends encore le vacarme que nous produisions, mes frères, ma sœur et moi, ainsi que des fonctionnaires du gouvernement installés sous un arbre gigantesque dans notre cour. Mao fixa des objectifs colossaux à l'économie chinoise. Il soutenait que notre production industrielle pouvait dépasser celle des États-Unis et de la Grande-Bretagne en l'espace de 15 ans. Aux yeux des Chinois, ces pays représentaient le monde capitaliste par excellence. Les surpasser sur le plan économique apparaissait comme une manière de triompher de l'ennemi. Cette éventualité flattait le peuple dans son orgueil et accroissait considérablement son enthousiasme. Le refus opposé par les Américains et la plupart des nations occidentales d'accorder une reconnaissance diplomatique à la Chine avait profondément humilié la population chinoise, tellement avide de montrer au monde qu'elle pouvait se débrouiller toute seule, qu'elle était prête à croire au miracle. Mao lui offrait d'ailleurs à cet égard l'inspiration nécessaire. Le peuple cherchait un moyen de dépenser son énergie, il était là, tout trouvé. L'enthousiasme l'emporta sur la prudence et l'ignorance triompha de la raison. J'entends encore le vacarme que nous produisions, mes frères, ma sœur et moi, ainsi que des fonctionnaires du gouvernement installés sous un arbre gigantesque dans notre cour. Mao fixa des objectifs colossaux à l'économie chinoise. Il soutenait que notre production industrielle pouvait dépasser celle des États-Unis et de la Grande-Bretagne en l'espace de 15 ans. Aux yeux des Chinois, ces pays représentaient le monde capitaliste par excellence. Les surpasser sur le plan économique apparaissait comme une manière de triompher de l'ennemi. Cette éventualité flattait le peuple dans son orgueil et accroissait considérablement son enthousiasme. Le refus opposé par les Américains et la plupart des nations occidentales d'accorder une reconnaissance diplomatique à la Chine avait profondément humilié la population chinoise, tellement avide de montrer au monde qu'elle pouvait se débrouiller toute seule, qu'elle était prête à croire au miracle. Mao lui offrait d'ailleurs à cet égard l'inspiration nécessaire. Le peuple cherchait un moyen de dépenser son énergie. Il était là, tout trouvé. L'enthousiasme l'emporta sur la prudence et l'ignorance triompha de la raison. Extrait numéro 2, chapitre 16. Monte au ciel et déchire la terre. Les gardes rouges de Mao, juin, août 1966. Sous le règne de Mao, une génération d'adolescents grandit avec la certitude qu'ils auraient à se battre contre les ennemis de classe. Les appels imprécis lancés par la presse en faveur d'une révolution culturelle avaient fait naître le sentiment que la guerre était imminente. Certains jeunes très au fait sur le plan politique eurent le sentiment que leur idole, le président Mao, était directement engagé dans cette affaire. L'endoctrinement dont ils avaient fait l'objet ne leur laissait pas d'autre solution que de prendre fait et cause pour lui. Dès le début du mois de juin, une poignée d'activistes d'un lycée rattaché à l'université de Tsinghua, l'une des plus prestigieuses de Chine, qui se trouvait à Pékin, s'étaient rassemblés à plusieurs reprises pour débattre de leur stratégie dans la bataille à venir. Ils avaient décidé de s'appeler les gardes rouges du président Mao. Ils prirent pour devise une citation de Mao parue dans le quotidien du peuple, « La rébellion est justifiée ». Ce premier contingent de gardes rouges se composait d'enfants de hauts fonctionnaires. Ils étaient les seuls à se sentir suffisamment en sécurité pour entreprendre des activités de ce genre. Par ailleurs, la politique faisait partie intégrante de leur milieu et les intrigues gouvernementales les intéressaient par conséquent beaucoup plus que la majorité des Chinois. Madame Mao les remarqua et les reçut en audience dès juillet. Le 1er août, Mao eut une initiative qui ne lui ressemblait guère en leur écrivant une lettre ouverte pour leur offrir son appui chaleureux et ardent. Dans cette missive, il modifia subtilement l'adage choisi comme devise par ses jeunes adeptes en « La rébellion contre les réactionnaires est justifiée ». Pour ces adolescents fanatiques, ce fut comme si Dieu en personne s'était adressé à eux. À partir de ce moment-là, les bandes de gardes rouges se multiplièrent à Pékin, puis dans toute la Chine, tels des champignons. Mao voulait faire d'eux ses troupes de choc. Il se rendait bien compte que le peuple ne réagissait pas à ses appels répétés en faveur de l'extermination des véhicules du capitalisme. Le Parti communiste regroupait des effectifs importants. De surcroît, les gens avaient gardé en mémoire la leçon de 1957. Cette année-là déjà, Mao avait exhorté la population à critiquer les cadres du parti, mais ceux qui avaient répondu à son appel avaient fini par être taxés de droitistes et on les avait condamnés. La plupart des gens se méfiaient d'une reprise de cette tactique qui consistait à faire sortir le serpent de son nid pour lui couper la tête. S'il voulait que le peuple réagisse, Mao devait donc dessaisir le parti de son autorité et monopoliser à son seul profit la loyauté et l'obéissance absolue de ses sujets. Pour parvenir à ses fins, il n'avait pas d'autre solution que de recourir à la terreur, une terreur intense qui couperait court à toute autre considération et effacerait les autres peurs. Il n'aurait pas pu rêver meilleur émissaire que ces garçons et filles exaltés, élevé dans le culte de la personnalité fanatique de sa personne et la doctrine militante de la lutte des classes. Ils avaient toutes les qualités propres à la jeunesse, rebelles, sans peur, ils étaient avides de se battre pour une juste cause. Ils avaient soif d'aventure et d'action. Ils étaient aussi irresponsables, ignorants, faciles à manipuler et enclins à la violence. Eux seuls pouvaient lui fournir la force immense dont il avait besoin pour terroriser la société chinoise et provoquer le chaos qui ébranlerait, avant de les anéantir, les fondements du parti. Un slogan résumait la mission des gardes rouges : « Nous jurons de mener une lutte sanglante contre quiconque résistera à la révolution culturelle, contre quiconque osera s'opposer au président Mao ».